Zone Marine, portrait de gens de mer. Une série pour faire connaissance avec celles et ceux qui travaillent dans le monde maritime et le milieu marin. Une série pour découvrir le côté mer de notre territoire et bien d'autres horizons. Vous allez entrevoir tout un univers, du littoral à la haute mer en passant par le monde sous-marin. Écoutez, vous entendez déjà le bruit de la mer et l'odeur d'iode commence à vous chatouiller les narines. Alors, embarquez avec nous.
Voilà, il y a tout devant derrière. Voilà, tout devant derrière. Tout à fait, voilà, tout devant derrière. Ok.
À la plage arrière de...
Ouais, Sergio, c'est clair, c'est ça?
Je m'appelle Daniel Cron, j'ai 42 ans, je suis marin, officier de marine marchande et plus particulièrement capitaine en long cours et également mécanicien. Donc, j'ai un parcours qui pour moi me semble classique parce que c'est celui dans lequel j'ai évolué en suivant un peu les conseils de mes parents à l'époque. Donc j'ai fait ce qui s'appelait un bac général à l'époque, et en sortie de bac, j'ai fait présenter le concours pour entrer à l'École nationale de la marine marchande, qu'on appelle aujourd'hui l'École nationale supérieure maritime, l'ENSEM. Voilà, mais c'est une vocation qui m'est venue très tardivement. J'ai surtout vécu de voyage étant petit, j'ai eu cette chance énorme. Et donc en voyageant, ça m'a donné cette envie, je me suis dit quel métier je peux faire pour voyager. J'ai d'abord pensé, je pense, d'une manière assez classique, comme pas mal de garçons qui arrivent à devenir pilotes et tout. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai un peu commencé à faire les démarches. Et puis, j'ai eu des problèmes de vue. Et j'étais déjà en terminale. Et j'ai visualisé, pour l'allusion, un paquebot de croisière. Et là, je me suis dit, ouais, trop bien, faire son métier, conduire un bateau de croisière, emmener des gens voyager à l'autre bout du monde, les faire rêver, dans une bonne ambiance. Il y a pire comme métier, quoi. Hein. Aussi, il y a un commandant qui gère ça, quoi, qui conduit le bateau. Il doit y avoir une école qui permet de former à devenir commandant. Donc, je me suis renseigné. J'habitais à Saint-Malo à l'époque. Et on m'a dit, il faut faire l'école à marine marchande. Et l'école à marine marchande, elle est en face de ton lycée, là. Juste là, incroyable. Je n'avais même jamais vu, en fait. J'ai fait une année de préparation au concours, là, où ça s'appelait les RIMIN, le lycée maritime. Et j'étais bien, bien prêt, quoi. Et puis, j'ai commencé ma formation. Et ce qui est bien dans cette formation, donc pour devenir capitaine, alors c'est quoi, en fait, finalement, on fait une formation pour devenir capitaine en long cours. Donc, capitaine en long cours, c'est un peu un titre honorifique. L'idée, c'est, c'est la marine marchande. La marine marchande, c'est globalement, moi, j'aime bien résumer ça en disant que c'est tout ce qui n'est pas militaire. C'est tout bateau qui n'est évidemment pas de plaisance, hein, qui n'est pas un voilier, mais tout bateau de commerce, tout bateau qui navigue sur l'eau, qui n'est pas militaire. Et donc, ça regroupe tellement de choses. C'est aussi bien, des bateaux de pêche, des grands bateaux de pêche, que des ferries, que des pétroliers, des porte-conteneurs, des bateaux qui posent des fibres optiques au fond de la mer, c'est des remorqueurs, c'est une somme de métiers, le métier de marin. Et donc, en fonction de la taille et la puissance du bateau, on doit faire un brevet différent. Et donc là, en l'occurrence, moi, je visais un bateau de croisière qui est un gros bateau et donc présuppose à passer le diplôme le plus élevé qui est celui de capitaine en long cours. Et donc, il y a un brevet qui se prépare en 5 ans. Et nous, en France, on a cette spécificité, cette chance, je trouve, contrairement à quasiment tous les autres pays dans le monde, à pouvoir à la fois travailler, étudier la partie pont, donc la partie navigation, on va dire, et en même temps, à la fois, la partie machine. Donc, ça veut dire qu'à terme, on n'est pas obligé, au bout de ces 5 ans, de devenir commandant. On peut également devenir chef mécanicien. Donc, c'est celui qui gère la machine du bateau. Et moi, je trouvais ça intéressant parce que je ne me voyais pas devenir commandant sans bien comprendre ce qui se passe en machine. Parce que si un jour, il y a un problème critique, il y a le chef mécanicien qui vient voir en disant là il y a le piston machin, le cylindre, on a fait une perte d'huile, la pression elle s'est cassée la gueule et machin et tout. Alors commandant, on fait quoi? C'est critique. T'en penses quoi, toi ? Moi, je pense qu'il faut rentrer. Ok. Voilà, et ça me posait un problème et je me suis dit, je pense qu'il faut, c'est bien d'avoir une vue globale et après de pouvoir décider. Et donc, finalement, de faire ces études en balayant et machine et pont, donc d'être polyvalent, je trouvais ça intéressant. En plus, la partie machine, elle est hyper intéressante parce qu'on balaye énormément de domaines techniques. Alors, c'est beaucoup de matières en IC, sans mauvais jeu de mots. Donc, il y a de l'électronique, de l'informatique, de la mécanique, de l'électrotechnique. J'ai déjà dit automatique, je ne sais plus. Et tous les travaux pratiques qui vont avec, des stages aussi qui sont passionnants, de simulateurs. Et donc, c'est passionnant parce qu'on balaye énormément de domaines. En plus de ceux qu'on voit au pont, qui sont de la météo, du droit, de la stabilité, évidemment de la navigation. Et puis après, tous les cours qui vont autour, parce qu'on est à la fois un peu... ou les stages, on est à la fois un peu pompier, un peu médecin, ou je devrais dire plutôt infirmier, ou spécialiste en radiocommunication. Et en fait, on balaye énormément, énormément de choses. Au final, on sait beaucoup de choses, tout en étant spécialiste de rien. Et je pense que c'est un peu la particularité de ce métier-là de marin au long cours, c'est qu'il doit se démerder en étant isolé, loin, avec une petite équipe. Surtout au long cours, et ben on touche un peu à tout, et moi, c'est ce qui m'a finalement plu. Et la partie machine, plus particulièrement, pose des problématiques qu'on n'a pas au pont. Au pont, on va vite se retrouver à faire un copier-coller de la journée d'avant, à rencontrer les mêmes problématiques. En fait, il va falloir surtout gérer un stress, une responsabilité, parce qu'on ne peut pas se retrouver à planter un bateau sur les rochers ou avoir une collision, un abordage avec un autre bateau. Alors qu'en machine, finalement, la machine, ça va gérer la propulsion du bateau ou l'énergie, quand on produit l'électricité, l'eau. Et on va vite se retrouver en situation un peu critique pour le bateau, surtout si on perd la propulsion. Hein, le bateau, il dérive et le capitaine, il ne peut rien faire hein, si le bateau, il dérive. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des nouvelles problématiques auxquelles on n'a été parfois jamais confronté. Il faut trouver des solutions. Donc, c'est très intellectuel, la partie machine. Ce n'est pas celle qui fait le plus rêver, paradoxalement, parce qu'on se dit, oui, bon, on est enfermé, il fait chaud, il y a la graisse, le gasoil. Mais intellectuellement, en fait, elle est vachement plus valorisante, je trouve, que le pont là où on brille, surtout dans le milieu de la croisière particulièrement, où il y a les histoires de galons, d'uniformes, le côté bling-bling. Ce n'est pas le côté qui me faisait rêver, mais on ne va pas se mentir, il y a une histoire de représentation à bord des bateaux, notamment pour les passagers, pour qu'ils sachent à qui ils s'adressent et comment c'est hiérarchisé. Mais la partie machine, du coup, est vraiment à prendre en compte aussi. Il m'a beaucoup intéressé également. Donc voilà, cette double compétence est très intéressante pour des petits bateaux. Et paradoxalement, c'est finalement ce que j'ai fini par faire dans ma vie en naviguant sur des voiliers, marine marchande aussi, mais où on se retrouve à faire à la fois le quart en passerelle et puis en journée la vidange du moteur ou de dépatouiller une armoire électrique ou je ne sais pas quoi. Donc pour moi, ça a été tout bénef. Arrivé à ma troisième année, j'ai vu dans mon école, donc l'école de la marine marchande qui est au Havre, il y en a une au Havre, une à Marseille, Saint-Malo et Nantes, il y a l'Institut polaire français, l'IPEV, qui avait publié une annonce comme quoi ils cherchaient d'un profil de mécanicien, parce qu'ils savent que nous, marins, dans ma formation, on a l'habitude de partir loin, longtemps, d'être isolé, de se débrouiller. Et donc, ils étaient intéressés par des profils comme nous pour hiverner sur une base antarctique, à Dumont-d'Urville. Et donc, chaque année, il y a des personnes qui restent un an là-bas à terre. Et ils ont besoin notamment de gens qui gèrent la production de l'eau et l'électricité. Et donc, quand j'ai vu ça, mes yeux, ils ont brillé. Je me suis dit, ça, c'est exactement ce qu'il me faut. Et j'étais à fond. Et donc, j'ai postulé. Et je suis parti comme ça, hiverner un an là-bas à Dumont-d'Urville, en terre d'Élie, en Antarctique. Et ça a absolument changé ma vie. Mais ça m'a permis d'écouter le milieu polaire que j'ai trouvé sublime et à la fois fragile. Et donc, je me suis dit qu'il fallait le préserver, le protéger et le travailler avec les scientifiques qui hivernent là-bas également. Il y a à la fois des ornithologues, des glaciologues, il y a même un séismologue. Donc moi, dès que j'avais un petit peu de temps libre, je les rejoignais pour faire des manips sur le terrain. Et ça, en fait, il faut que je continue à être marin, mais de donner un sens à mon existence, à mon travail. Et je me suis dit, j'ai envie de continuer dans ce milieu-là. Donc, tant qu'à faire, polaire, parce que c'est fascinant, scientifique. Et j'ai entendu parler à ce moment-là d'un bateau qui finissait une expédition absolument dingue, qui s'appelait Tara, qui est un voilier qui était pris dans la glace 1 an et demi avec une équipe qui était restée à bord pour étudier la fonte à dérive de la banquise, donc de la glace en Arctique. Et quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Et là, j'ai commencé à les harceler. Ils m'ont dit, bah, y a rien de prévu pour la suite, parce que la fameuse dérive arctique là, se terminait. Et donc, bah, tant pis, hein, j'ai laissé tomber. Et j'ai eu la chance d'enchaîner, suite à mon hivernage, je suis parti sur une autre base polaire qui s'appelle Concordia, qui est une base franco-italienne qui est au cœur du continent antarctique. Et là, j'ai fait une campagne d'été. En fait, j'ai enchaîné sur quelques mois sur place. Et là, je suis passé chef mécanicien, donc avec des responsabilités en plus. Donc, c'était assez excitant. Et en même temps, je ne faisais pas le fier parce que je me disais, est-ce que ça va le faire ? Bien que ce soit l'été, il fait moins froid, mais l'hiver, il peut faire moins 80. Moi, j'y étais, il faisait moins 50 quand même. Ça commence à causer. L'eau gèle très, très vite, donc il faut être assez réactif. Et là-bas, j'ai eu la chance de rencontrer une médecin qui s'appelait Minli, qui avait fait la dérive arctique donc sur Tara, qui avait été médecin sur le bateau. Et en la rencontrant, j'ai discuté tout ça. Elle me dit, mais tu devrais réessayer. Ils sont en train de préparer une nouvelle expédition, un tour du monde sur les traces de Darwin, 2-3 ans. Donc, je termine ma campagne d'été à Concordia comme chef mécanicien. Je décroche cet entretien chez Tara. Et donc, qu'est-ce qu'ils me proposent ? Eh bien, une place de mécanicien sur le voilier Tara en chantier à Lorient, qui est le port d'attache du bateau. Et donc, j'ai commencé sur ce chantier de l'extrême, il ne faut pas exagérer, mais c'était un chantier très dense. Il fallait transformer complètement le bateau qui sortait de la dérive arctique et de l'adapter pour faire un tour du monde en mission océanographique. Donc c'était pour l'expédition qui s'appelait Tara Océan. Il y avait un timing à tenir qui était pour un départ en septembre 2009, où du coup il fallait installer plein de nouveaux équipements qui n'étaient pas forcément là à bord. C'était en chantier avec l'aide de soudeurs, de tuyauteurs. Et c'est là vraiment en fait que j'ai appris mon boulot. Et la bonne chose aussi avec Tara, c'est d'enchaîner à peine rentré en France, là où beaucoup de copains d'hivernage sont partis dans ce qu'on appelle une sorte de blues hivernale antarctique. Et ben moi, en fait, j'ai pas trop à me poser des questions. J'ai foncé la tête dans le boulot. J'aime bien en parler aussi parce que souvent on dit, mais comment tu fais la vie de marin et la vie de famille ? Moi, j'avais une chérie à l'époque qui m'avait déjà attendu 1 an et demi. Et je lui ai dit, bah, écoute chérie, j'ai passé une semaine avec elle. Elle dit, bah, je dois rembarquer là parce que c'est un peu l'opportunité de ma vie. Et je suis parti en mode chantier 4 mois. Et j'ai juste pris un jour de congé et j'ai eu un week-end complet. Et on a pu se fiancer sur ce week-end-là, de réussir à construire une vie de famille en parallèle. Mais je la remercie parce que c'est quand même atypique et exceptionnel. Et il faut une patience incroyable. Et pour l'équilibre, c'est que c'est important parce que marin, c'est souvent un boulot de passion, mais je connais aussi beaucoup de potes marins quand une fois qu'ils débarquent et tout, bah, ils sont un peu perdus, ils disent bon, bah, j'ai pas vraiment de chez moi, j'ai pas vraiment quelqu'un qui m'attend, qu'est-ce que je fais après de ma vie ? Et souvent, c'est quelque chose qui va pas trop de pair, surtout sur le long terme et surtout au long cours. Quand on parle de long cours, c'est quand on part plusieurs mois en mer finalement. Et souvent, ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose que les gens vont faire quelques années de leur vie. Et puis après, finalement, bah, ils se marient, ils ont des enfants. Et puis, bah, ils trouvent soit un boulot dans le paramaritime, dans les ports, ou carrément, ils changent de boulot pour travailler à terre. J'ai enchaîné sur un tour du monde de 3 ans, parce que c'était ça, Tara Océan, et c'était complètement dingue. C'était partir pour faire un inventaire du plancton dans tous les océans du monde. Ça n'avait jamais été fait. On est parti avec des filets, une rosette. Alors l'idée, ce n'est pas forcément de nous expliquer à quoi servait chaque équipement scientifique. Mais en gros, dans l'idée, on est allé étudier tous les océans, toutes les mers, de 0 à 1500 mètres, en envoyant des filets, en prélevant de l'eau de mer, en mesurant les caractéristiques physico-chimiques de l'eau de mer, et voilà, de faire un inventaire global, un temps zéro, de se dire, bon voilà, qu'est-ce qu'il y a dans la mer maintenant, en liant biologie, océanographie, et à un moment aussi où on pouvait récupérer des échantillons et analyser leur séquence d'ADN, chose qui encore quelques années plus tôt était compliquée parce que très chère. Et là, on pouvait séquencer l'ADN, ça c'était une petite révolution à des coûts qui étaient corrects. Et aussi, parce que Tara, c'est un très grand voilier, Mais en termes de bateau de travail, ça reste tout petit par rapport à un vrai navire de recherche comme à l'Ifremer ou d'autres bateaux qui existent du même type. Et donc, il a fallu tous ces équipements aussi les miniaturiser. On avait des prototypes, on avait des choses qui n'avaient jamais été faites avant. On a dû inventer des protocoles. Et donc, en fait, cette expédition a été un peu une petite révolution dans la biologie marine. On a eu beaucoup de publications scientifiques. Nous, on a vu du pays, on a rencontré beaucoup de monde. Moi, ce qui m'a plu sur ce bateau, c'est qu'à la fois, je ne vais pas dire tout à fait que je suis devenu écolo, mais j'ai eu une sensibilité par rapport à l'environnement, aussi bien par rapport au simple fait d'avancer à la voile plutôt qu'au gasoil, le fait qu'on se posait la question de ce qu'on mangeait, de dire bon, on essaye de manger moins de viande, que les produits qu'on utilisait à bord pour nettoyer, qu'ils soient biodégradables et tout. Et là où je n'avais pas ce côté avant, je n'avais pas eu cette éducation ni à l'école ni dans ma famille, et bien finalement, j'ai appris à devenir écolo. Et au-delà de ça, en fait, on avait une vraie mission via le bateau. C'était de partager au plus grand nombre ce qu'on vivait, déjà pour montrer ce que c'est comme type de vie à bord qui est atypique. Et aussi parce que ce qu'on étudiait était hyper intéressant. Et comme ça, c'est pas sexy le plancton. Et en fait, quand on s'y intéresse, que ce soit la diversité, les couleurs, le mode de fonctionnement, ce qu'il y a dans un litre d'eau de mer que vous prélevez n'importe où dans le monde, c'est juste incroyable. Et comment les communautés interagissent, c'est assez fou. Et donc, l'idée, c'était que dès qu'on faisait une escale, eh ben, on rencontrait le grand public, les écoles, les journalistes, les scientifiques locaux, et on partageait ce qu'on vivait. Voilà. Et on a enchaîné après sur une année de plus autour de l'Arctique. On s'est dit, bon, on a tout sillonné, sauf l'océan glacial arctique, allons faire un tour. Et donc, en 9 mois, on a fait le tour complet de l'Arctique en continuant cette mission Tara-Océan, où on a continué à prélever le plancton en faisant le fameux passage du nord-ouest et du nord-est. Et on a réussi tout juste à le clôturer sans se faire prendre dans la glace. Une mission et un complément hyper intéressant pour la mission. Quoi, voilà. Et c'est là où je me suis dit, en fait, cette vie, ce mode de vie d'expédition, dans le milieu même de la marine marchande et tout, c'est un milieu qui n'est pas du tout connu. C'est un milieu à part où il y a très peu de gens qui évoluent là-dedans. Quoi. Et la clé de tout ça, je dirais, c'est la passion, ça c'est sûr. L'envie et de continuellement en fait se former, d'apprendre de nouvelles, de s'intéresser, en fait d'être curieux, de s'intéresser et d'être le plus polyvalent possible. Ce que je dirais aujourd'hui, on me dit tiens, bah, t'es quoi ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, je dis assez facilement que je suis marin, mais en fait, je ne suis pas spécialiste d'un truc en particulier. D'ailleurs, sur mon CV, mon profil, je dis bah, je suis marin, mécanicien, plongeur. Voilà, bon, en fait, je suis un couteau suisse et c'est ça ce qu'on recherche en expédition, c'est avoir quelqu'un qui soit le plus polyvalent possible. Dans la continuité de Tara, c'est deux personnes, là, Guylain et Manu. Il y en a un, il était prof de plongée, l'autre a été monitrice de voile. Et à un moment, ils se sont dit, bon, on va voler un peu nos propres ailes, on va monter nos expéditions et on va faire under the pole, donc sous le pôle, sous les glaces, sous la banquise, et ils sont allés faire une première expédition au pôle Nord, où ils se sont fait déposer en avion sur la banquise. ils m'ont dit, bah, écoute mon gars, la prochaine fois que tu veux nous... Enfin, en gros, tu nous rejoins quand tu veux pour notre prochaine expédition, qui était, on vend notre maison, on achète un voilier, puis on va vivre à bord du voilier, et puis bah, on va aller au Groenland, on va suivre la côte ouest, on va suivre la fonte de la banquise et puis bah, on va explorer, on va voir ce qu'il y a sous la banquise. Et voilà, moi j'ai entendu parler de ça, je me suis dit mais c'est pour moi. Et puis moi je vais me former à la plongée polaire, au recycleur. Et voilà, et c'était alors, tous ces projets là, d'expédition, souvent en fait, pour faire aujourd'hui, il faut avoir conscience qu'une mission océanographique c'est quelque chose qui coûte très cher. Il faut affréter des bateaux, il y a le carburant, il y a l'équipage. C'est des missions qui coûtent très cher et donc en général elles sont très courtes. C'est par des bateaux, en tout cas en France, ça passe par l'Ifremer, les bateaux de G-Navire. Donc il y a des trucs qui sont faits très qualitatifs, mais assez courts dans le temps et dans les lieux. Et donc si on veut partir sur une expédition longue, il faut des moyens qui coûtent bien moins cher. Et donc c'est pour ça que les voiliers sont assez adaptés pour ça, parce que la mise en œuvre, le coût d'exploitation sont bien moindres. Et donc avec un Tara ou un Under the Pole, un Y, là, le nom du bateau, il y a moyen de faire ça. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé Under the Pole 2 à l'époque au Groenland. et on était tous bénévoles et donc tous passionnés et tous très motivés sans compter nos heures. Et ce qui est bien dans ce mode de fonctionnement, qui n'est pas durable évidemment, mais ça permet de se former et d'être aussi tous au même, on va dire, diapason. On est tous mus, on va dire, par une même énergie, une même envie de... Bah là, on était là pour la connaissance, quoi, hein, pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. L'idée, c'était de voir comment le corps humain se comportait, comment se comportaient les recycleurs, qu'est-ce qu'il y a sous la banquise. En fait, personne ne plonge là-bas. Parce qu'il n'y a pas de connaissance des fonds marins au Groenland. Et là, nous, on allait vraiment en mode exploratoire. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? On n'avait pas de données. Les cartes marines qu'on avait, il n'y avait pas d'informations sur les fonds. Voilà, pour aller plonger, il fallait déneiger sur le pont pendant 2 heures, dégivrer les détendeurs. C'était parfois, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout? C'était... Et là, encore une fois, ce qui m'a permis de rejoindre ce projet, c'était la machine. Paradoxalement, encore une fois, ce besoin pour le bateau, parce que un bateau, il a besoin d'avancer, même si c'est un voilier. Il a un moteur, hein. Il a un groupe électrogène pour faire avec de l'électricité. Il a également un moyen pour faire de l'eau douce potable pour boire. Et en fait, c'est ce métier propre qu'on apprend sur un bateau marine marchande, quel qu'il soit. En fait, ce sont les mêmes équipements. Et donc, c'est ce qui m'a permis de vivre cette aventure assez dingue avec eux, de plonger sous la banquise, de battre un record du monde, qui était de 112 mètres à l'époque sous la banquise, d'aller à la rencontre du requin du Groenland qui a été très rarement observé en milieu naturel, de faire des manips scientifiques aussi pour le Muséum d'histoire naturelle, et puis de rencontrer les communautés inuites et de passer un hivernage dans la banquise enfermée au large d'un village du côté d'Oumanak avec des souvenirs qui étaient juste incroyables. Là, je continue ma vie de marin. Hein. Le problème, c'est que c'est une passion, c'est une drogue. Ces dernières années, j'ai notamment rejoint 2 projets. Je parlais tout à l'heure de Jean-Louis Etienne, qui a construit un voilier qui s'appelle Persévérance. Et donc, finalement, enfin, j'ai fini par devenir capitaine. Donc, j'étais capitaine sur le bateau. J'ai eu la chance de l'amener en Antarctique. Et de découvrir la péninsule comme ça, et de faire de la voile. Un peu de science aussi. Et un autre boulot en parallèle que j'ai effectué, c'est que je me suis dit, bon, je suis marin, je suis mécanicien, je suis plongeur. Bon, je suis assez polyvalent, mais je pense que je peux faire encore un peu mieux. Ce serait bien que j'ai une petite étiquette un peu laborantin, un peu plus spécialisé technique dans les labos. Et il y a des projets aujourd'hui qui me font envie et vibrer, où il faudra être des équipes encore plus petites, dans des environnements un peu extrêmes, polaires. J'ai vu passer une offre, et il y a une compagnie la seule vraie compagnie de croisière en France aujourd'hui, qui s'appelle Ponant. Ils ont 13 navires, donc des bateaux de croisière qui sillonnent le monde. Ils sont surtout spécialisés polaires, mais ils naviguent un peu partout. Alors, c'est des bateaux de petite taille comparés aux gros bateaux de croisière, mais il y a vite pas loin de 200 personnes à bord. Et ils ont lancé, il y a 3 ans maintenant, un brise-glace qui s'appelle le Commandant Charcot. Donc, à l'époque, ils proposaient du coup de prendre un poste pour s'occuper des laboratoires et de l'accueil des scientifiques à bord du bateau. Ils ont aussi imaginé réserver un emplacement pour avoir des laboratoires. Et donc, moi, j'ai postulé, j'ai été pris vu le profil que j'avais. C'est assez atypique, mais j'ai trouvé ça assez excitant parce que ça a permis de retourner vraiment en milieu polaire et puis vraiment dans la glace. Parce qu'en étant dedans, on peut facilement sortir sur le terrain, aller faire des prélèvements sur la glace, sous l'eau, où on a très très peu de données en fait en dessous, parce que autant avec les satellites aujourd'hui on peut avoir facilement des données atmosphériques ou en surface, mais ce qui se passe en dessous, à moins d'y être, on peut pas d'aller sur le terrain ou à des moments de l'année ou des endroits où normalement aucun autre bateau peut passer. Donc il y a ce côté en fait d'accueillir des scientifiques à bord, les emmener sur le terrain. Et puis le côté laboratoire où du coup, moi je leur dis comment c'est fichu, les différents tuyautages qui arrivent, comment ils peuvent se brancher, que ce soit au niveau de l'énergie, par rapport à leur manip. Donc il y en a, ils étudient la glaciologie, d'autres la biologie, d'autres les polluants, d'autres les mammifères marins. Enfin, il y a 10 000 études qui sont faites. Parfois très qualitatif, c'est court parce que c'est le temps d'une croisière pour passagers. Hein. Et nous, on est une petite bulle autonome que je coordonne et moi, je les aide à optimiser ce temps pour le temps des activités des passagers, d'aller sur le terrain, de faire le maximum de mesures de prélèvement et de rentrer sur le bateau. D'où je reviens là tout de suite, et ben je me suis retrouvé là sur les derniers embarquements à aller notamment en Géorgie du Sud avec une équipe d'ornithologues chiliens, parce que en ce moment, ben déjà l'année dernière, il y a des épidémies de grippe aviaire. On ne sait pas trop comment ça se propage. On sait que ça tue énormément d'oiseaux. Hein, quand ils sont contaminés, en général, je crois que c'est 50% des animaux qui y passent. Cette grippe aviaire aussi se transmet à d'autres animaux qui meurent. Donc, il y a une mortalité de masse. Et donc, eux s'intéressent à savoir comment elle est propagée, qui est contaminé, est-ce qu'ils développent des anticorps. Et donc, j'étais avec eux à les accompagner sur le terrain, notamment en Géorgie du Sud, qui est un endroit assez incroyable où je souhaite à toute personne écoutant cette émission d'y s'y rendre un jour, ou au moins d'aller voir des photos, des documentaires, parce que c'est incroyable. Il y a une concentration d'oiseaux, de manchots royaux, de phoques, de qui dingue. Moi, je rêvais d'y aller depuis des années, quoi. Et voilà, on est parti faire notamment ça. Et donc ça, c'était les dernières semaines. Mais quelques semaines avant, j'étais à traverser l'Arctique d'Alaska à Longyearbyen. Il y avait une vingtaine de scientifiques. On s'est intéressé à plein de sujets différents, notamment glaciologie, forcément. On s'intéresse à comment font la banquise, à quelle vitesse, comment elle dérive. Forcément, avec le réchauffement climatique, c'est une thématique qui revient très, très, très souvent. Mais pas que. On s'intéressait aussi aux polluants. Les polluants qui sont ramenés par les airs, par la mer, par les courants. Mais des pollutions qui ne viennent pas de l'Arctique, qui viennent de pays industrialisés, qui sont en Europe, qui sont en Amérique, qui sont en Asie. Et pourquoi c'est intéressant de focaliser sur ces pôles, et particulièrement là le pôle Nord, parce qu'il a été vu que c'est des endroits qui vont être impactés par le réchauffement climatique et par le changement climatique beaucoup plus rapidement que le reste de la planète. Et là, c'est ça qu'on a fait tout récemment, et je reviens juste à la maison de ce chouette embarquement.
Onde marine, portrait de Jean de Mer. Une série pour faire connaissance avec celles et ceux qui travaillent dans le monde maritime et le milieu marin. Une série pour découvrir le côté mer de notre territoire et bien d'autres horizons.